Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour assister à Professeur Combe dans son cours de la matière noire et le problème de la cosmologie et tout ça. Alors, excuse-moi parce que je ne parle pas français très bien. Je vais essayer de parler lentement avec un mauvais accent, mais on va voir comment ça va se passer. Alors, je vais parler... de comment on peut être certain qu'il y a le matière noire et comment on peut le tester et le prospectus pour l'avenir. Le matière noire est fascinant pour beaucoup de monde, pour les artistes, par exemple. Ici, il y a un an, on avait une exposition de tableaux en Washington, une grande galerie d'art, et voilà le tableau, le matière noire. Et vous voyez que la différence est seulement avec, comme on dit, les matières noires partout, mais les formes sont un peu différentes, mais c'est toujours noir. Alors, pour l'univers, on n'a pas trouvé la forme de la matière noire, ou la matière sombre. On est certain. C'est quelque chose là qu'on ne comprend pas très bien, mais nous sommes les atomes, les étoiles, les planètes, nous, l'être humain. On a presque les baryons de nous sommes composés, ils sont plus ou moins 5% de la bougie totale de l'univers. Il y a aussi l'énergie noire, et je ne vais pas parler de ça du tout, c'est une autre composante encore mystérieuse, découverte il y a une douzaine d'années. Mais la matière noire, on est avec la matière noire pour beaucoup plus long que ça, et c'est peut-être 5 fois, 6 fois plus en abondance que nous, les atomes. Et on n'a pas le moindre idée que la matière noire, qu'est-ce que c'est la nature de la matière. Pourquoi on est si certain que ça existe? Je veux commencer avec l'intuition qui vient de la cosmologie. Alors ici, c'est le grand cadre de l'univers, des millions, presque des millions de galaxies, avec la distance qu'on peut déduire qui vient de les redshifts des galaxies. Et les données de plusieurs surveys sont bleues, la théorie c'est en rouge. Ignore la théorie pour le moment. Avec les données, on peut voir, il y a plusieurs surveys, un dans le nord, un petit qui a commencé le sujet, un autre plutôt dans le sud. Mais dans ces données, on voit les grandes structures dans les galaxies. Ils sont les amas de galaxies. Ici, c'est un amas très connu, l'amas de Coma, le plus grand amas proche de nous, 100 millions d'années-lumière. Et la forme un peu bizarre, c'est parce que les mesurements aussi sont faits avec les redshifts et sont une distorsion de la vraie distance parce que des galaxies avec des vitesses locales, et c'est dans la distorsion. Mais en effet, c'est plus ou moins sphérique, la marque de Coma, c'est plus ou moins là, il y a beaucoup d'autres marques. Alors, on a essayé à faire un peu de théorie, de simuler l'univers numériquement à grande échelle avec les points de masse qui représentent des galaxies. Ici, les autres en rouge. Et la seule chose qu'on a fait pour faire cette simulation, on assume la théorie de gravité de Newton, Einstein, mais c'est plutôt Newton qui compte pour ça. Le fait d'Einstein sur ces échelles pas très important. Et on peut voir que si on associe une luminosité avec chaque point de masse, et si on assume que la matière, le plus de matière est noire, et froide, c'est-à-dire pas de vitesse lui-même, de dispersion dans la vitesse de particules de matière noire. Avec ces deux assumptions, on peut reproduire dans une manière très exacte, en effet, les structures sur grande échelle. Voilà. Les amas, les super-amas, tout ça, adaptés pour chaque survey. Alors, pour ça, on est certain qu'on est sur le bon chemin à penser que la matière noire, peut-être que c'est une particule, mais c'est quelque chose qui interagit très faiblement avec la matière connue, le baryon, et qui est effectivement de la matière froide partout dans l'univers. Alors, comment on peut dire plus? Alors, je vais commencer avec les contraintes plus précises qui viennent de l'astrophysique. On commence avec les lentilles des galaxies, mais avant les lentilles, on commençait avec un amas. J'ai parlé d'un amas comme ça déjà. C'est un amas, dans ce cas, pris avec le Hubble Space Telescope chez beaucoup de galaxies. Et on trouve que ces galaxies, si on a mesuré les vitesses pour chaque galaxie, ils ont une assez grande vitesse de 1000 plus ou moins kilomètres par seconde, il va disperser. S'il n'y a pas de matière noire, qui est comme un réservoir de masse, ressource de masse, qui contraint la galaxie, et pour ça, il reste là. Et la personne qui a fait cet argument, c'était Fritz Zwicky, un Américain, suisse, qui a habité en Pasadena au cours de sa vie. Et lui, il a parlé dans l'année 1033 de la matière noire qui est obligatoire là. Il a écrit en Allemagne « Das dunkle Materie ». Et il a estimé, c'est parce qu'il y a un siècle, que le rapport de matière noire à matière lumineuse obligatoire est dans l'unité de masse de soleil, c'est 400. Masse solaire pour chaque unité de luminosité solaire. C'est l'unité utile pour les astronomes. Et la chose incroyable, et en effet, 80 ans passés, maintenant, on les mesures beaucoup plus précis. On utilise la matière noire comme une lentille. Et quand on voit très précisément ces amas, on voit les distinctions des galaxies derrière l'amas. Et ces distinctions, on peut faire un plan avec toutes les toutes petites galaxies, avec certaines seules là, qui est derrière le centre, mais toutes les autres galaxies sont un peu distordées. Et quand, à cause des effets de gravitation de la matière noire. Et si c'est un plan de la matière noire dans cet amas, on a vraiment le premier plan. Maintenant, on a fait ça avec cet effet pour plus de centaines d'amas. Et on est certain qu'ils sont dominés par la matière noire. Et maintenant, on peut voir directement les matières noires dans un plan dans le ciel. Alors, ça, c'est les amas de galaxies qui ont une échelle de millions d'années-lumière. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les galaxies comme la nôtre, les galaxies sur la plus petite échelle? Et si l'histoire commence avec deux personnes, astronomes, une femme, c'est un peu étonnant que maintenant, il y a assez peu de femmes qui sont dominantes dans la science. On a un exemple ici, bien sûr, le Collège de France. Mais dans le XXe siècle, c'était très, très rare. Vous connaissez tous Marie Curie, mais dans le domaine d'astronomie, c'était peut-être elle, Vera Rubin, qui était très importante. Et c'est elle qui a mesuré à un moment quand il n'y a presque pas de femmes qui est venue au télescope sur les autres montagnes, en soc à Pasadena, Mount Palomar, et elle a dû passer la nuit en bas. Il n'y a pas de logement pour une femme dans la haute montagne à côté du télescope, seulement pour les hommes. Et c'était, tout a changé depuis, mais c'était dans les années 1950. En tout cas, elle a mesuré notre galaxie plus proche, Andromède. Elle a trouvé que la vitesse des étoiles, ici le centre de la galaxie, il ne diminue pas quand on va assez loin de la galaxie. C'est-à-dire, si on obéit la loi de Kepler, la loi de gravitation de Newton, comme dans le système solaire, par exemple, la vitesse des planètes diminue plus loin de la Soleil, hein, ces vitesses d'étoiles doivent diminuer, sauf il y a de matière noire qui maintient la force de gravité et accélère les étoiles. Et c'était confirmé par un expert radioastronome avec les ondes radio, et il a plus ou moins la même époque, il a mesuré encore plus loin que les étoiles, et on vérifie que les vitesses restent constantes. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on trouve avec tout ça? Ici, la galaxie. Ici, si on a seulement la matière lumineuse, c'est la prédiction, et c'est ce qu'on trouve. Et la différence, c'est la matière noire qui donne ça. Et maintenant, c'est un réseau qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, et ici, plusieurs galaxies, avec tous ces courbes de rotation qui continuent, avec une composante lumineuse, une composante qu'on appelle la halo de galaxies, la matière noire. Et ici, un grand nombre de galaxies, les galaxies petites avec assez petite velocité, plus grandes avec plus grande velocité au centre, et presque au centre, et elles continuent assez plat. Matière noire est partout. OK, alors on a trouvé la matière noire dans les galaxies et dans les amas de galaxies. Qu'est-ce qu'il y a sur les échelles encore plus grandes? Okay. Maintenant, je parle ici de les 1000 des années-lumière, pour les amas des millions des années-lumière. Maintenant, je vais aller à la milliard des années-lumière. Qu'est-ce qu'on me dit sur la matière noire? Alors, il y a une grande découverte qui est arrivée avec le rayonnement du fond diffus, le rayonnement fossile du Big Bang, qui en appelle les oscillations quantiques. C'est un peu comme les ondes qui sont une réponse de la matière à la gravitation qu'on détecte dans le rayonnement du fond. Et l'histoire a commencé il y a très longtemps. En effet, j'étais au début de cette découverte, quand j'étais un étudiant à États-Unis, à Harvard, et j'ai écrit un article qui dit qu'on doit trouver dans ce rayonnement du fond des petites fluctuations qui sont la réponse à la matière qui est là, et ces petites fluctuations en densité sont l'origine des galaxies aujourd'hui. Et si on doit expliquer les galaxies, on a besoin de fluctuations des racines des galaxies au début. Et en principe, on peut les voir dans le rayonnement diffus qui vient direct de l'origine, presque l'origine de l'univers. Alors, et dans ces idées, on a fait une prédiction. Ici, c'est la matière noire qui évolue avec le temps. C'est la fluctuation qui augmente avec le temps à cause de la gravitation. Ici, c'est la fluctuation prévue comme les ondes de son, mais dans la radiation, le rayonnement. Et c'est une prédiction parce que la vitesse de son et le rayonnement, et en effet, sa vitesse est très grande, et presque la vitesse de lumière, et on peut imaginer les vitesses, les ondes dans la lumière. Mais à un moment qu'on appelle le moment de découplage de matière et radiation, tout va ensemble. Ici, c'est le baryon qui font ces oscillations. Le baryon rejoint la matière noire. Et dans le rayonnement qui vient à nous de cette époque, 400 000 années après le Big Bang, on peut détecter les fluctuations en température qui sont une trace de la fluctuation dans le baryon, qui sont eux-mêmes une trace de la fluctuation de la matière noire. Il trouve que parce qu'on a cherché pendant les années 70, pour presque 20-30 ans, pour ces fluctuations difficiles à trouver, on était certain pour avoir plus petites fluctuations en rayonnement, on a besoin de matière noire. Sinon, sans la matière noire, on a pensé, c'est plus cette croissance ici avec la matière noire, on aura trop grandes fluctuations. C'est un argument. Alors, et l'état de la théorie, je vais éviter cette picture-là, c'est trouvé avec le satellite dans les dernières quelques années, et le dernier satellite, c'était le satellite Planck. Et le satellite Planck a trouvé ces fluctuations infinitésimales qui ont seulement expliqué avec la présence de la matière noire froide. Sinon, c'est foutu. Et ici, ces fluctuations qui sont réminiscentes de la fluctuation des ondes qui sont gelées à la surface dans l'univers quand la matière peut venir directement à nous après la dernière interaction avec le baryon, etc. Alors, c'est une mesure de fluctuation. Et l'amplitude de ces fluctuations, ça mesure la propriété de l'espace-temps, de la cosmologie de l'univers. Alors, et par exemple, un des résultats de cette découverte était un truc complètement bizarre à première vue. On peut mesurer la courbature d'espace. On sait maintenant qu'à cause de la gravitation, l'espace est un peu courbé. Einstein a raconté ça. Mais comment on peut mesurer la courbe de l'espace? Alors, en effet, parce que ici, les fluctuations dans le rayonnement du fond, nous sommes ici, et il y a sur un, c'est le chemin de fluctuation. Si l'espace est courbé, la lumière n'est pas droite. Si ce n'est pas courbé du tout, c'est droit. En effet, la chose incroyable, parce que si on a seulement la matière noire dans l'univers, on a pensé au début que ça doit être courbé. Mais à cause de la présence d'un autre composant noir, et je ne vais pas parler de ça du tout, il y a un bilan entre les deux. En effet, on a prouvé avec les données de Raymond Dufour, l'espace est exactement comme celle de Euclide, c'est complètement plat. Parce qu'on trouve que les fluctuations doivent venir exactement comme ça, sinon on va pas, on a pu mesurer les fluctuations dans une échelle angulaire précise. Alors, ça, qu'est-ce qu'on... alors, ces fluctuations angulaires sont aussi mesurées maintenant dans le baryon. Ici, c'est le baryon qu'on trouve dans les grandes surveys des galaxies. Et les galaxies sont un peu plus nombreuses dans certains endroits. Et on trouve qu'on voit ces fluctuations-ci, c'est la distance entre la, l'échelle qu'on mesure dans les surveys des galaxies, en effet des milliards de mégaparsecs, et c'est peut-être une centaine. On voit les fluctuations dans la structure des densités de l'univers représentées par les galaxies maintenant. Et ces fluctuations sont exactement équivalentes à la fluxion dans le rayonnement du fond. Et les deux types de fluxions mesurent en effet la réponse de la matière aux matières noires. On a besoin de matière noire dans l'univers très tôt. Et c'est une grande, peut-être que c'est la plus grande épreuve de la présence de la matière noire. Ces fluctuations dans le rayonnement du fond et aussi dans la densité des galaxies. Alors, il y a une autre raison pourquoi on est... certains ont besoin de matière noire. J'ai parlé de ce curieux bilan entre l'énergie noire et la matière noire qui fait l'univers, en effet, très plat. Alors, c'est à cause des supernovae et je vois, je raconte un peu plus de l'histoire de la cosmologie maintenant. Comment on est certain qu'il y a d'autres composantes qui font un bilan avec la matière noire. Hubble a trouvé... dans 1929, Edwin Hubble, le grand astronome américain, c'est lui qui est crédité avec l'expansion de l'univers, le découvert, et il a montré que quand on regarde les galaxies avec une distance pas très loin de nous, en effet, des millions de parsecs, on trouve une systématique augmentation des vitesses. Et il a pensé que c'est la cause d'expansion de l'univers, plus ou moins, il n'est pas très, très convaincu de ça lui-même, il est un astronome, mais il y a des autres qui étaient plus convaincu de cosmologistes théoriques qui ont prévu que c'était nécessaire avoir l'expansion de l'univers pour avoir un modèle très simple de l'origine. En effet, Lemaître, deux ans avant Hubble, il a reconstruit avec les mêmes données qu'Hubble, qui étaient publiques, qui est venu d'un astronome qui s'appelle Vester Slipher. Il a pris les mêmes données de Hubble. Lui aussi, il a visité Caltech. On ne sait pas s'il a vraiment parlé à Hubble ou non, mais lui, il a, ses données ont given exactement la même chose que Hubble. Malheureusement, Lemaître, il a publié son résultat en français. Et personne à cette époque a lu français. Et c'est seulement après l'annonce de Hubble qu'en Angleterre, un astronome qui s'appelle Arthur Eddington, il a découvert l'article en français de Lemaître. Il l'a invité à visiter en Londres et Cambridge. Il a essayé de persuader Lemaître à publier son résultat. Mais Lemaître, c'est une personne très honnête, très simple. Il a dit non, c'était déjà publié par Hubble l'année avant. Il a publié son article sur l'expansion, on crédite lui avec la découverte de la théorie du Big Bang, mais pas avec la loi d'expansion, parce qu'il a refusé de le publier, parce que c'était déjà publié. Voilà, c'est une histoire intéressante de l'astronomie, de la cosmologie du 19e, de 20e, au début du 20e siècle. Alors, on continue avec cette histoire, le nouveau résultat, avec une supernova, c'est une étoile brillante, on peut utiliser comme une mesure de distance. On voit ça dans une galaxie très loin et on trouve que ces supernovas sont plus faibles que prévu. C'est-à-dire, et la seule explication jusqu'à maintenant, et c'est à cause de l'accélération de l'univers qui rend une distance plus grande. Et pour ça, on a donné à les personnes qui ont découvert ça, ces trois astronomes, deux Américains, un Australien, le prix Nobel pour cette découverte. Et les résultats, je montre les résultats ici, et c'est très important pour la matière noire. Ils ont trouvé que si on mesure la matière totale de l'univers, ici, et ici, c'est l'accélération, c'est la matière noire, c'est l'énergie noire, en effet, qu'on peut traiter effectivement comme une densité équivalente à matière, mais c'est vraiment une énergie. Alors, il se trouve qu'on doit être là avec les supernovas, et c'est-à-dire, on peut déduire qu'il y a deux tiers d'univers et énergie noire, un tiers matière noire, et c'est six fois plus que le baryon. C'est pour ça qu'on est convaincu qu'il y a, la matière noire dans l'univers au plus grande échelle. Et bon, je ne veux pas continuer avec ça. OK. Alors, j'espère que vous êtes convaincu qu'on a de matière noire. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut le détecter? Voilà, je vais maintenant venir à ça. Alors, c'est difficile, très difficile. Et c'est ici que les particules, les physiciens des particules ont fait une grande entrée dans l'astrophysique parce qu'ils ont réalisé qu'ils ont les candidats parfaits pour la matière noire. On a besoin de particules qui sont créées dans le Big Bang, qui sont déjà là, et avec une faible interaction. Et parce que le Big Bang, on sait maintenant, à cause de rayonnement fossile, rayonnement de fond, c'était au début très, très chaud. C'est un endroit idéal pour fabriquer les particules bizarres élémentaires. Et alors, et on peut estimer l'interaction de ces particules. On ne sait pas le nombre de particules, mais on sait que toutes les particules possibles sont créées dans le Big Bang. Alors, si cette particule qui existait brièvement, peut-être qu'elle s'est disparue, s'il y avait une interaction trop grande avec les autres particules, ça va être disparu complètement. Si c'est trop faible, les particules qui étaient là au début vont être dominées l'univers maintenant. Alors, il y a une section d'efficace précise pour donner la matière noire. C'est comme un indice de l'univers. Si la particule existe, et la physique des particules dit tout qui peut exister doit exister, à un moment ou un autre, peut-être pas maintenant. Et si ça existe maintenant, avec une cross-section d'efficace spécifique, ça peut donner la matière noire. C'est ce qu'on appelle, ces particules, on appelle les WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, particle, c'est un acronyme anglais. Et on appelle ça le miracle de WIMP. On peut prévoir exactement la section d'efficace et ça donne espoir, expérience. En plus, il y a une théorie très, très belle qui vient de l'origine des particules, de la masse des particules, qui on appelle la supersymétrie. Et cette théorie, il y a une prédiction que pour chaque particule, il y avait à un moment ou un autre un antiparticule, une particule équivalente. Mais en effet, les particules, en effet, c'est les particules qu'on appelle les bosons et les fermions. Pour chaque fermion, un boson et vice-versa. Ce n'est pas exactement les antiparticules. Mais ça n'existe pas maintenant. On n'est pas dans un monde supersymétrique. Mais la théorie dit qu'à l'origine, on était. Et si c'est ça, toutes ces particules bizarres étaient instables, mais une a resté, le moins lourd a resté, était stable dans sa thèse de supersymétrie. Et ça, le candidat idéal pour la matière noire, et parce qu'on a cherché à CERN avec le LHC pour cette particule, on n'a pas trouvé. On est certain, si ça existe, ça doit avoir une masse de plus ou moins 100 masses ou 1000 masses de celle d'un proton. Alors, ça peut être beaucoup plus grand, parce que si c'est trop grand, la section va être trop bas, on va avoir trop de particules. Alors, on a une fenêtre assez limitée à visiter avec les expériences. C'est ici, c'est un diagramme qui vient des physiciens des particules qui cherchent dans tous les espaces possibles de paramètres masse de particules possible versus cette section efficace. Et je montre seulement ça parce que ça donne l'incertitude énorme de problèmes. Ici, c'est la masse de Planck, 10 moins 6 grammes, c'est énorme, okay, pour une particule. Ici, c'est la masse d'un proton. Ici, c'est la masse qui est 10 moins 15 de masse de proton. Toutes ces possibilités existent dans la physique de problématique noire. Mais si on reste avec le supersymétrie, on va chercher seulement là. Okay? Ça donne une idée de la possibilité, si on ne trouve pas la supersymétrie à CERN, à LHC, dans les prochains 5 ans, on peut être obligé à chercher dans les autres espaces possibles. Mais pour le moment, c'est qu'est-ce qu'on concentre sur l'espace. On sait plus ou moins la masse, on sait plus ou moins la section efficace. Ça donne espoir aux expériences. Voilà. OK. Et ici, je montre la technologie pour chercher la matière noire dans plusieurs moyens. À la LHC, on appelle ça détection directe. En principe, on peut produire une particule matière avec une collision de très grande énergie entre deux protons, en principe, parce qu'il y a, une interaction très faible avec la matière noire. Mais aussi, c'est les colliders. Voilà, c'est l'interaction avec matière standard qui donne la matière noire. Mais aussi, ces particules de matière noire, ils passent dans notre laboratoire, ils passent dans cette chambre, dans cette salle ici. Ils sont partout. Mais la réaction est très, presque pas. Mais c'est là. Et alors, il y a un moyen de faire la direction. Et finalement, ces particules de matière noire, ils peuvent être dans l'espace de notre halo ou pas de l'univers. Ils peuvent avoir une collision chacun avec un autre, aussi dans un petit morceau de lumière. Alors, on a trois moyens d'imaginer la matière noire, la matière standard. Et on a trois différentes détections. Alors, la matière noire annule avec soi-même, a donné des particules, des choses visibles. C'est une direction avec aussi la matière dans le détecteur et aussi à grande énergie avec le collider. On a trois points. Alors, on commence alors avec les expériences. Alors, ici, les expériences dans tous les domaines possibles. Ici, on est en Namibie. Voilà. Un grand télescope, pas comme un télescope on a vu, mais son but est voir les rayon gamma qui vient d'une collision de matière, particules matière, très loin dans l'espace. Ici, c'est une expérience qui est à le pôle sud, 2 kilomètres dans la glace, pour voir les particules de matière noire qui entrent dans notre Soleil, font la collision chacune avec une autre, dans un petit neutrino qui peut pénétrer la Terre, aller dans la glace, produire un muon dans la Terre, et le muon donne un petit peu de lumière qui est visible dans la glace quand la glace est transparente. Et on a une expérience pas très différente en France, en Toulon, dans la Méditerranée. Avec l'eau, on peut faire presque la même chose. Ici, à Genève, le Hadron Collider. Et ici, on est dans une mine de plusieurs kilomètres au-dessus de la Terre, parce que là, on n'a pas de rayon cosmique, on peut aussi essayer de voir la matière noire. Alors, toutes ces choses sont possibles pour la matière noire. Il y a une seule expérience qui a détecté, qui dit c'est détecté la matière noire. Et c'est très controversial parce que personne, en plus que 13 ans, a réussi à reproduire les résultats. Les résultats sont impressionnants parce que professeur Bernabé, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Un grand sasso en Italie, un grand laboratoire souterrain en le nord d'Italie. Elle a trouvé que dans son détecteur, il y a des modulations à cause de signaux de possibles particules noires inconnues, à cause de la motion de la Terre. Okay? Et chaque année, si on a la matière noire, à cause de la rotation et la motion de la Terre autour de la Soleil, c'est comme on passe dans un vent, la force est un peu plus... dans la pluie, la force est différente derrière et avant. Et dans ce cas, on a une petite molécule de matière noire. Et elle a trouvé ça, et ça, l'expérience continue. Mais c'est la seule expérience qu'il a trouvée. Et maintenant, il y a des expériences partout dans la Terre. Voilà. Il y a plusieurs en France, dans les Alpes, on a Edelweiss, dans les Pyrénées, on a Canfranc, c'est plutôt le côté espagnol. Mais en tout cas, il y a Angleterre, il y a Canada, il y a États-Unis, il y a la Chine. Le plus profond est dans la Chine maintenant, le Japon. Voilà, la Chine, c'est presque 5 km de profondeur. Voilà. On n'a trouvé rien du tout pour le moment. On a cherché, on continue à chercher. Ici, les limites supérieures. On peut poser la question, c'est la masse présumée de particules. Et maintenant, on pense que les particules sont plus ou moins pas très loin de 1000 fois la masse de protons, c'est là. Voilà. Ici, c'est l'avenir. Alors, ici, c'est le contrat actuel. Ici, on va faire ça dans le proche avenir, avec un plus grand détecteur que maintenant. Voilà. Alors, on doit continuer à chercher. OK. Finalement, je vais parler de... On n'a pas trouvé en direct. Je vais parler maintenant de indirect. Comment on va chercher la matière noire indirectement? Alors, ici, il y a des particules dans l'halo, quelque part, où il y a la matière noire. Il y a une collision entre ces deux particules. Cette collision peut donner... pour donner une annihilation de ces deux particules. C'est un peu comme une particule et une antiparticule. Voilà. Et il peut donner, parce qu'il y a des centaines de masses d'un proton dans l'énergie, dans l'annihilation, ça peut donner les photons de très grande énergie, les rayons gamma, et aussi on peut produire les paires de électrons et positrons, les protons et les antiprotons, les choses comme ça qui sont assez rares pour être un bon signal de quelque chose d'intéressant qui arrive de la vide, en effet de la vide. On ne pense pas qu'il y a de matière là, on peut trouver quelque chose comme ça, peut-être. C'est l'idée. OK. Je vais montrer ça seulement à vous convaincre qu'il y a une grande incertitude dans ces prédictions. Pourquoi? Ici, c'est la matière noire dans notre voie lactée. Voilà la densité de matière. Oh, nous sommes là. Ici, c'est le centre. Ici, toutes les possibilités. Et je ne veux pas expliquer pourquoi on a ces attitudes, mais on a ces attitudes. Et le problème, que où on a beaucoup de matière noire dans le centre, le meilleur endroit à chercher, évidemment, mais il y a des incertitudes entre les modèles possible, et les autres modèles de 2, 3 ordres de grandeur. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que les collisions des particules dépendent sur les collisions sur la masse densité carrée. Alors c'est un facteur d'incertitude qui est très amplifié. OK, alors qu'est-ce que sont les résultats? Alors il y a des choses très intrigantes. On cherche, par exemple, les particules très rares, comme les positrons. C'est antimatière, c'est l'antimatière partenaire de l'électron. On trouve ça très rarement dans les rayons cosmiques, mais il y a une prédiction. En effet, ça, il y a presque 30 ans. Et la prédiction est que dans ces collisions, on peut imaginer les antiprotons et les positrons. Okay? Ils peuvent être les indices de la matière noire, si on les trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà. Ici, jusqu'à assez récemment, les détections, il y a des satellites qui ont cherché pour ça. Et pour les positrons, on a trouvé des positrons qui viennent, c'est l'énergie ici, qui viennent de le cosmic rayon, qui interagissent avec le matériel solaire, on a trouvé une nouvelle composante. Et cette nouvelle composante, ici, c'est une prédiction de la théorie de la matière noire. Voilà, c'est intéressant. Nouvelle composante, peut-être c'est la matière noire. La même théorie prévoit peut-être les antiprotons. Pour le moment, on n'a pas vu un excès d'antiprotons. OK. C'était il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, il y a une nouvelle expérience qui s'appelle AMS, qui encore prend les données dans l'espace. Et c'est très intriguant parce qu'on voit que les positrons, c'est la fraction de positrons dans le rayon cosmique, se monte. Okay? C'est presque 50-30%. Alors, ici, les possibilités pour les plus simples théories de matière noire, dépendant sur la masse de matière noire, on prévoit un composant de ça peut être la matière noire. Alors, les données commencent à être assez précises pour chercher la matière noire. On n'a pas trouvé la matière noire pour le moment, mais peut-être que c'est le meilleur indice qu'on a maintenant pour quelque chose de bizarre dans le rayon cosmique qui peut être le relic de matière noire. Le problème est toujours qu'il y a les autres explications. Et si c'est l'autre, il y a des pulsars partout dans la galaxie. On n'a aucune idée combien de positrons sont émis par un pulsar. Mais on pense qu'il y a quelques-unes, certainement localement dans le pulsar. En effet, beaucoup. S'il échappe ou non, on ne sait rien. Mais si on assume qu'il peut échapper, ici, la composition de tous les pulsars de notre voisinage, des douzaines, voilà, et ils peuvent expliquer cet excès de positrons. Alors ici, c'est le flux, ici, c'est le ça représente le composant nouvel, et c'est pour ça pour expliquer ça. Voilà. Et il y a une chose très intéressante qui va venir dans quelques années. Si c'est vraiment les pulsars qui donnent cet excès de positrons, on va voir en quelques années, avec assez de données de cette satellite AMS, un excès de pulsars dans la direction de la plus proche pulsar, qui s'appelle Monogem, et c'est de 300 années-lumière de nous. Voilà. Ça, c'est une prédiction qui va être testée pas loin. Bon, j'ai dit assez pour les positrons. C'est très disputé, les positrons, à cause de l'hypothèse de pulsar, et aussi parce que ce n'est pas très facile avec si beaucoup de positrons. Mais il y a une autre source de données qui est peut-être le plus promettant de tous. Et alors, et c'est ici. Alors, ici, c'est le centre de notre galaxie, observé par un satellite qui était prédécesseur de la satellite Planck, qui a fait le premier plan précis de la rayonnement du fond. Et quand on fait un plan de rayonnement du fond, normalement, on doit jeter la galaxie. C'est la poussière qu'on ne veut pas. Mais dans cette poussière, pour la poubelle, il y a toujours les choses intéressantes. On ne doit pas les jeter complètement. Et quand on regarde cette poussière, si tu veux, de la Voie lactée, je mets la poubelle peut-être, hein, parce que ce n'est pas seulement la poussière. Ici, c'est une masque qui on doit ignore la région noire, c'est artificiel. Mais derrière le centre de cette masque, on peut voir un excès de rayonnement. Et ce n'est pas le rayonnement du fond, c'est notre galaxie qui donne ça. Et bizarrement, cet excès de rayonnement, c'est un peu plus chaud que le rayonnement radio normal, c'est dans les ondes radio, et c'est aussi quasi-sphérique. Alors, c'est exactement ce qu'on était prévu à l'époque, il y a peut-être 10 ans, pour la signature de la matière noire, parce qu'il donne les électropositrons qui peuvent interagir avec les champs magnétiques de galaxies et donne l'excès de rayonnement synchrotron. Alors, les auteurs de cet article, ils ont fait une prédiction. Ils ont prédiction qu'un jour, le satellite Fermi, qui n'était pas lancé à cette époque, va mesurer quelque chose et ça peut être l'indice, et c'était leur prédiction, et ça va être la preuve de la matière noire. Alors, ici, le résultat de la satellite Fermi, c'est le ciel est vu par Fermi. Et c'est le centre de la galaxie, et aussi, on a le rayon gamma. On voit le rayon gamma maintenant, qui vient, en principe, de la matière noire, mais aussi des pulsars et peut-être autre chose aussi, on ne sait pas. Alors, ici, dans le centre, on a trouvé les choses sont très, très compliquées. On voit ici deux grandes boules qui sont des centaines de parsecs, voilà. Alors, il y avait une grande explosion dans le Sonorque il y a 10 millions d'années. Et c'est possible que ces grandes explosions, ils ont produit un excès de positrons et d'électrons, plutôt les électrons, qui ont donné cet excès rayonnement diffus dans la radio. Et quand on cherche dans les autres domaines, dans les ondes radio, on trouve aussi dans les ondes très longues, petite évidence d'explosion, et à la fréquence vue par WMAP, c'est la même chose que j'ai déjà vu, et, bon, et aussi dans les rayons X, c'est vu par un satellite de rayons X. Alors, on n'est pas certain du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on doit chercher avec la prédiction de la matière noire. Ici, c'est la voie lactée comme vue dans le rayon gamma. Mais est-ce qu'à cause de tous ces clumps de matière noire que la théorie dit doit être là, ça peut donner une forme spécifique à le plan en gamma? Ici, cette forme, il y a plusieurs exemples. On voit les clumps de la matière noire. Et s'il y a beaucoup de clumps, on peut voir une échelle comme ça. On peut voir seulement le concentré dans le centre, mais on doit voir beaucoup de sources gamma un peu partout. Et ça dépend sur la physique de matière noire. Et, bon. Et si on focus, c'est tout le ciel en rayon gamma. Et si on va dans le centre de la galaxie, on a les prédictions qui vont un peu comme ça. Ici, c'est les données. On voit le rayon diffus en gamma. Ici, les prédictions pour plusieurs modèles sur la même échelle. Mais alors, si c'est peut-être être les pulsars aussi, mais on n'a aucun indice que c'est les pulsars, et pas mal de gens disent que ce peut pas être les pulsars qui donnent ça. Le seul candidat que je pense est plausible, c'est la matière noire. Alors, c'est un peu faux. C'est pas vraiment moi. Les gens, il y a pas mal de gens qui pensent qu'un de ces modèles de matière noire peut expliquer ça. Moi, je suis plus agnostique, mais je pense que c'est la meilleure explication, mais pas la seule. Et comment on peut tester tout ça? Voilà, un jour, on va mesurer le spectre. C'est déjà le premier indice du spectre. Ici, c'est le spectre qui est prévu en rayon gamma pour la matière noire. Et c'est déjà pas mal. Et ici, c'est la donnée de Fermi, et ça marche pas mal. Alors, je veux maintenant passer à une autre possibilité pour la matière noire qui est ce que me fascine beaucoup, que je crois actuellement, parce que je pense que c'est une chose très intrigante à tester. Et l'idée est la suivante. Notre galaxie, dans le centre, il y a un trou noir géant. Et ce trou noir a une masse de 4 millions de la masse de notre Soleil. Comment on est si confident de ça? Parce qu'on a mesuré les étoiles autour de ce trou noir pendant les dizaines d'années. On a vu le déplacement de ces étoiles et les orbites de ces étoiles, les vitesses de ces étoiles, et on peut mesurer la masse de le trou noir dans le centre. Et c'est 4 millions de masses solaires. Alors, quand était ce trou noir formé? On n'a aucune vraie idée, mais on pense que les trous noirs massifs sont formés au début des galaxies, quand la galaxie lui-même a formé. Et notre galaxie, on pense, était formée dans un halo de matière noire. C'était la théorie standard de la formation des galaxies. Des halos de matière noire, les galaxies se forment dedans. Et si le trou noir massif forme en même temps, ce trou noir va attirer des particules de matière noire autour de lui. Et ça donne une réponse très intrigante. Ici, c'est la densité de matière noire. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé beaucoup autour de notre Soleil. C'est là. Et ici, la matière qui va vers le centre avec grande incertitude, c'est un profil optimiste. Mais dans un parsec autour de ce trou noir, Le matière noire est attirée et reste là à cause de l'augmentation de gravité de la trou noir quand se forme. Et il y a un grand pic de densité autour d'un trou noir, jusqu'à ce que la matière si dense ne peut pas annuler. Et si c'est pas, ça peut donner des rayons gamma très, très intéressants. Alors, pour ça, on doit mesurer, pour voir ça, autour de notre trou noir. Alors, ici, c'est le centre de notre galaxie, vu un rayon gamma, et le trou noir est exactement ça. Alors, c'est intriguant, on voit les excès de rayons, mais c'est seulement les nuages autour d'un trou noir. On doit aller plus proche à le trou noir, avec un télescope, ce télescope de rayon gamma Nabi et le satellite Fermi aussi. Et quand on voit très proche de ce trou noir, et la limite avec le rayon gamma, c'est seulement quelques parsecs, ce n'est pas exactement précis pour le moment, mais on voit le rayon gamma qui, de ce trou noir, de cette centre de la galaxie, qui a une forme de ça, c'est l'énergie de le rayon gamma, qui peut-être était un peu une forme un peu abrupte. Et si il y a toujours deux explications pour ce changement, c'est peut-être l'éruption de la masse de la trou noir qui donne, la masse de particules noires qui est annihilée et ils ont une énergie de rayon gamma limitée, ou peut-être une chose astrophysique autour du trou noir qui est plus compliquée. Et on va tester tout ça dans le proche avenir, avec un nouvel télescope qui s'appelle le Cherenkov Telescope Array. C'est des centaines de télescopes comme ça. On ne sait pas exactement où on va le mettre, mais c'est prévu déjà pour commencer bientôt, dans les prochains 5 ans. Et avec ça, on va mesurer, la capacité de mesurer beaucoup plus précisément ces changements dans le spectre. Et si c'est la matière noire, on peut imaginer un changement absolument abrupt dans certains modèles, on appelle ça super-exponentiel, qui c'est une réflexion de la masse de particules maximum pour le trou noir, la masse de... ou si c'est plutôt un effet de l'astrophysique, on pense que ça va être peut-être pas si abrupt comme ça, on pense. Voilà. OK. Je vais... pas dire grand-chose de plus. Je voulais penser un peu à un autre poubelle de l'astronomie. Je ne peux pas résister ça parce que c'est le rayonnement du fond. Pas de micro-ondes maintenant, mais de rayons gamma, des autres rayons. Toutes les choses qui sont très lumineuses, mais peut-être une durée de vie très vite, on ne peut pas les voir, ils sont très rares. Mais en principe, ils sont tous là dans le rayonnement du fond. Okay? Et avec cette histoire, on peut tester les théories qui prévoient les excès de rayonnement, peut-être à cause de trous noirs ou autre chose. Et, par exemple, c'est le rayon du fond des rayons gamma. Ça devient de toute l'échelle. On a beaucoup de sources qu'on ajoute qui peuvent contribuer à ce rayonnement du fond. Ici, la somme de toutes les sources. Mais l'idée, on peut imaginer une composante de ce rayonnement du fond, c'est aussi l'effet d'excès gamma autour de l'annihilation de matière noire quelque part dans l'univers. Et par exemple, ici, c'est une théorie avec des sources de rayons gamma. On peut voir dans ce rayon gamma, sur plusieurs modèles, mais dépendant sur la masse de particules, on peut imaginer dans ce rayon gamma un composante de matière noire. Voilà. Tout ça, c'est un truc intéressant. Bon, OK. J'ai peut-être 5 minutes, Françoise? OK, bon. OK, ça... c'est la dernière chose pour la matière noire. C'est l'amas de galaxies. Pourquoi les amas de galaxies? J'ai commencé avec ça. Vous souvenez que les amas de galaxies, c'est la première découverte de la matière noire, en effet. Alors, pourquoi pas le tester? Si on essaie de le faire, on doit commencer avec notre meilleure prédiction pour la matière noire. Ici, c'est le profil d'une centaine de amas, mais on peut voir, quand on ajoute tout ça, on a très bonne compréhension de la matière noire jusqu'au quelques millions d'années-lumière. Alors ça, c'est la matière noire. Ici, c'est un amas de galaxies vues en rayon X et aussi dans les effets de lentilles. Et les choses bizarres de cet amas, c'est un amas qui, on pense, c'est une preuve que la matière standard de matière noire standard ne mange pas très bien. Ou, alternativement, la théorie de monde ne mange pas très bien. Une ou l'autre, les adhérents de ce point de vue, parce que on voit beaucoup de matière là et beaucoup de rayons X. Et les rayons X donnent une attestation de la matière noire, et on a beaucoup de matière noire qui n'est pas associée seulement avec les rayons X, qui mesure l'effet de gravitation, en effet. Et on a toujours essayé à comprendre ça, et la dernière idée, résultat, est avec la matière noire standard, on peut expliquer les formes de cet amas de galaxies avec... pour une collision des deux amas, et on peut imaginer pourquoi on a les rayons X avec la matière noire dans un endroit et beaucoup d'autres matières noires dans un autre. Voilà. Bon, je ne veux pas parler de la matière noire en décadence. Il y a peut-être une autre chose qui a attiré beaucoup d'attention récemment, c'est que si on peut imaginer, si la matière noire, en principe, peut donner une ray de quelque chose de très bizarre qu'on ne peut pas imaginer avec la matière standard. Ici, c'est le meilleur exemple d'une ray comme ça. On a mesuré récemment, dans le rayon X des amas de galaxies, une pic comme ça, à 3,5 keV. Alors, ce n'était pas expliqué par la matière ordinaire, on pense. Parce que c'est très compliqué à trouver un atome qui peut donner ça. Si c'est le cas, l'autre cas, c'est la matière noire. Alors, est-ce que c'est peut-être la matière noire? Le problème avec ça, je me doute, parce qu'on a très bien regardé notre galaxie, à 3,5 eV, on ne voit rien du tout. Voilà. Alors, où la matière noire le proche nous donne ça? Alors, c'est peut-être... un exemple de la controverse dans l'astronomie actuelle. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont découvert de la matière noire, c'est annoncé dans la presse, et les autres gens qui disent non, ce n'est pas possible parce qu'on doit le voir avec notre matière noire le plus proche. Alors, je vais finir avec le dernier exemplaire de matière noire qui n'est pas pour le moment en vue avec les annulations, mais on est certain de cela. C'est la galaxie naine. Alors, la galaxie naine, c'est une grande découverte. La galaxie naine ultra faible, je veux dire, extrême, c'est un grand trouvé de l'astronomie dans les dernières dizaines d'années, parce qu'on a détecté une grande population de galaxies qui sont, ici, c'est une galaxie naine moins ou moins normale, mais on a découvert les galaxies naines qui sont invisibles presque. Ils sont les reliques des plus grandes galaxies et la théorie de matière noire, froide, dans le modèle standard, c'est une prédiction, il y a beaucoup de ces galaxies, et ils sont peut-être détruits partiellement par les supernovas, mais il y a des nuages noirs qui doivent rester. Est-ce qu'on a les exemples de matière noire? C'est un grand but maintenant pour toutes les expériences qui cherchent pour le rayon gamma, pour regarder en profondeur ces galaxies naines, et peut-être que c'est beaucoup plus simple que le centre de notre galaxie. Le centre de notre galaxie, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de nuages, de débris, des choses comme ça, là, qui donnent les rayons gamma. Mais dans une galaxie naine, il n'y a rien. Quelques étoiles et, en principe, beaucoup de matière noire. Alors, jusqu'à maintenant, on a cherché, il y a tous les éléments, on a trouvé seulement la limite supérieure. Mais ici, qu'est-ce qu'on doit aller? C'est l'avenir. On a juste commencé avec le plus optimiste des prédictions. Je vais finir avec les prédictions pour l'avenir. Okay? Qu'est-ce qu'on va imaginer à faire pour la matière noire? Alors, ici, c'est la LHC. Et vraiment, pour l'avenir, on a les possibilités avec le LHC, on a possibilité pour aller en collision directe et la possibilité pour aller en collision indirecte. Et je pense pour les chercheurs de particules de physique, s'ils ne trouvent pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans le LHC, la nouvelle physique, les particules de matière noire, les clues, les évidences de supersymétrie qui connectent la matière noire, il va aller à encore une échelle 10 fois plus grande que LHC. Et la Chine a déjà commencé à sérieusement réfléchir contre ça. Et j'imagine que l'Europe ne va être pas trop loin derrière la Chine. L'LHC va 10 TeV, ça va être 100 TeV. Et en même temps, pour la matière noire, le nouvel arrêt Cherenkov va aller aussi à les dizaines de TeV pour chercher aussi pour la matière noire. Alors ça, c'est l'avenir. On peut demander qu'est-ce que la limite finale pour toutes les expériences. La limite finale, c'est la suivante. Ici, ça, c'est la limite pour les expériences LHC et indirectes. Pour les expériences directes, on a finalement une limite ultime. On a seulement ça, c'est la limite de toutes les expériences, c'est la masse des particules, l'interaction. Et si on doit aller là, chaque augmentation en 10, c'est 10 fois plus de masse de détecteurs. On pense maintenant des tonnes de détecteurs, on imagine des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes de détecteurs super froid dans une mine, 3 km au-dessus de la Terre, etc. Mais la limite ultime, ça vient du tunnel de notre Soleil. Alors, ça donne un bruit qu'on ne peut pas éviter. Et ça donne le même effet de la matière noire dans le détecteur. Alors, on a plusieurs années, j'imagine, à découvrir. Il s'est déjà l'expérience prévue. Pendant les prochaines dizaines d'années, on parlait un petit peu plus loin, pour chercher le matière noire, mais j'imagine, si on ne trouve pas la matière noire dans ces expériences, on doit chercher ailleurs. Et l'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je vais finir avec ça. Merci beaucoup.